L'Assemblée de Dieu. Deuxième partie. Pratique du rassemblement selon Dieu.
Deuxièmement, l'œuvre du service. Clergé et ministère officiel. L'absence de tout clergé et de ministre officiellement consacré est sans doute ce qui frappe le plus dans les rassemblements constitués en dehors des diverses organisations ecclésiastiques. Elle étonne et même trouble souvent des âmes sincères, mais habituées à leur forme religieuse. Car enfin, n'est-il pas parlé dans le Nouveau Testament de surveillants, d'anciens, de serviteurs et de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, comme d'apôtres et de prophètes? Cela est hors de doute. Mais avant d'aller plus loin, constatons que nulle part dans ce Nouveau Testament nous ne voyons ces hommes, ou telle catégorie d'entre eux, constituer un corps distinct du reste des fidèles pour exercer des fonctions sacerdotales, célébrer le culte, accomplir seuls certaines cérémonies. Au contraire, tous les chrétiens y sont considérés au même titre comme des sacrificateurs. L'apôtre Pierre ne fait aucune distinction entre eux lorsqu'il écrit « Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2, verset 5. La notion même de clergé est étrangère à l'enseignement chrétien. Nulle part non plus l'Écriture ne présente ou ne prévoit dans le christianisme une succession de prêtres ou de ministres assurée par une consécration ou une ordination quelconque que les diverses églises retiennent, bien que beaucoup, particulièrement les églises dissidentes, repoussent l'idée d'un clergé à la manière catholique. S'il s'agit des apôtres, il est clair que c'est le Seigneur qui les a désignés et qu'ils n'en ont point établi après eux. Si un autre a pris la charge de Judas, ce ne sont point les onze qui l'ont choisi. Acte 1, verset 24.
Et priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi. »
Quant à Paul, il insiste partout sur le fait qu'il a reçu son apostolat de Dieu et non des hommes, et il ne s'est point donné de successeur. Le principe est le même pour tous les ministères ou services. On cherchera en vain autre chose dans le Nouveau Testament. Nous y voyons bien que, avant que la parole fût complète, l'Église étant en formation, les apôtres ont jugé bon de désigner eux-mêmes des serviteurs. Acte 6, verset 1 à 3, et dans les assemblées des nations, des anciens, acte 14, verset 23, à l'image de ce qui existait depuis toujours en Israël, voir acte 11, verset 30, Jacques 5, verset 14 et 16.
Acte 6, verset 1 à 3. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et les douze, ayant appelé la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur sept hommes d'entre vous, qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. » Acte 14, verset 23. Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Acte 11, verset 30. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Jacques 5, verset 14 et 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup.
l'apôtre Paul, de par son autorité apostolique, a donné qualité à Tite pour le faire en Crète. Tite 1, verset 5, et peut-être, quoique non expressément, à Timothée à Éphèse, 1 Timothée 3.
1 Timothée 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens suivant que moi je t'ai ordonné. »
Nous lisons bien aussi en Actes 13, verset 1 à 4, que les prophètes et docteurs de l'assemblée à Antioche ont imposé les mains à Paul et à Barnabas, mais non point pour leur confier eux-mêmes un service, puisque c'était l'Esprit-Saint qui les appelait.
Acte 13, verset 1 à 4. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas, et Siméon, appelé Niger, et Lucius, le Cyrénéen, et Manaen, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, ayant été envoyés par l'Esprit-Saint, descendirent à Séleucie, et de là ils firent voile pour Chypre.
De sorte qu'ils témoignaient seulement de leur communion et de leur pleine approbation. Relevons aussi que Timothée, objet de prophétie particulière, 1 Timothée 1, verset 18, avait reçu un don de grâce avec l'imposition des mains du corps des anciens, 1 Timothée 4, verset 14, et par l'imposition des mains de l'apôtre Paul, 2 Timothée 1, verset 6.
1 Timothée 1, verset 18, « Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. »
1 Timothée 4, verset 14,
« Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. » 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains.
Les anciens reconnaissent ce que l'apôtre était seul compétent pour conférer et qu'il ne confère que sur l'injonction formelle du Saint-Esprit exprimée par prophétie. Ce sont là des faits incontestables, mais en vain voudrait-on en tirer règle ou indication permanente
en faveur d'une investiture officielle.
Non seulement les apôtres n'ont pas eu de successeur, et la parole est absolument muette sur la transmission éventuelle de l'autorité apostolique, mais elle l'est tout autant sur la nomination d'hommes revêtus d'une fonction officielle. Nul aujourd'hui ne peut se prévaloir d'une autorité donnée de Dieu pour un tel objet. La parole insiste, au contraire, sur l'action du Saint-Esprit pour distribuer dons et services. Acte 13, verset 2, 1 Corinthiens 12.
Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit-Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Or, c'est précisément cette action qui n'est pas reconnue dans l'ensemble du monde chrétien. Comment la laisserait-on libre et souveraine quand, dans la plupart des cas, on n'admet même pas la présence du Saint-Esprit comme personne ici-bas. Nécessairement, les règlements d'une organisation humaine prétendent alors se substituer à lui, et il faut une investiture pour exercer une fonction dans l'Église. Même lorsqu'on déclare ne consacrer à de telles fonctions que des hommes appelés par Dieu, cette consécration est le fait d'une autorité officielle et exclusive dont nous ne trouvons pas trace dans la parole de Dieu. Or, celle-ci ne manque pas de direction précise sur l'ordre et l'édification dans l'assemblée. Seulement, elle dit, le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Il n'appartient ni à l'Assemblée, ni encore moins à un clergé issu d'elle, de les distribuer. Nous avons grandement besoin d'être gardés, non seulement des formes, mais de cet esprit clérical qui, supprimant l'exercice collectif, remet à quelques-uns la charge exclusive de la marche de l'Assemblée. Nous en serons délivrés en croyant simplement à la présence du Saint-Esprit dans l'Assemblée. Il y agit par les dons de grâce. Les dons de grâce. L'Assemblée ne saurait, en effet, vivre sans l'exercice de ce que la parole appelle les dons de grâce. Le don est proprement une faculté ou une capacité donnée de Dieu à une personne déterminée pour agir à l'égard des hommes. Une note en bas de page, l'Écriture identifie souvent le don et celui qui le possède. Éphésiens 4, versets 8 et 11.
C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Christ n'en laisse pas manquer à l'Église. Il a donné, donne et donnera à cet égard, par le Saint-Esprit, tout ce qui est nécessaire et suffisant tant qu'elle sera sur la terre pour la nourrir, l'administrer et l'édifier. Il en est de plusieurs sortes. Les divers passages qui en parlent en donnent des énumérations différentes, chacune avec une intention particulière, mais dont aucune, visiblement, n'est limitative. Il y a, pour l'ensemble de l'Église, les dons en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ.
Éphésiens 4, versets 11 et 12.
Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ.
Lui-même, glorifié comme la tête de ce corps, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On voit qu'il s'agit là, essentiellement, du service de la parole. Et c'est cela que l'on entend lorsqu'on emploie, de façon absolue, le terme de ministère. Celui des apôtres se continue, leur message ayant pris place dans les écrits inspirés, complétant la parole de Dieu. Les prophètes, suivant les temps, appliquent la parole aux besoins que Dieu leur fait discerner dans l'Église avec la réponse qu'il veut y donner. Ils mettent, pour ainsi dire, les âmes en contact avec Dieu lui-même. Les évangélistes travaillent dans le monde pour en tirer ce que Dieu amène dans l'Assemblée. Les pasteurs ont le soin de donner la nourriture spirituelle convenable et veillent sur le troupeau que le monde et Satan menacent sans cesse. Les docteurs exposent sainement et clairement la vérité. Note en bas de page, le ministère des apôtres se continue, vient-il d'être dit par les écrits inspirés du Nouveau Testament. Il faut attirer ici l'attention sur les moyens d'édification que Dieu met à notre disposition par les écrits, non inspirés sans doute, qui conservent le ministère de ceux qui ont été de vrais prophètes et docteurs pour appliquer et découper droit à la parole en vue du témoignage actuel. Ils ont donné leur propre pensée, mais ce que le Seigneur avait à communiquer pour nos temps par sa parole remise en lumière. On se détourne trop de cette nourriture solide, dispensée par un ministère selon Dieu, la ration de blé donnée au temps convenable, pour lire tout et n'importe quoi. La perte est grande de négliger la lecture de ce ministère écrit d'inestimable valeur. Fin de la note. Le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, qui insiste surtout sur la souveraineté du Saint-Esprit dans la distribution des dons, nous dit que Dieu a placé dans l'Assemblée d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. S'il est donc prisé tant les Corinthiens, miracles, langues, lesquels étaient des signes pour les incrédules, ne se manifestent plus parmi nous, les autres subsistent. Il n'est pas question ici d'évangélistes, parce que ce chapitre nous occupe de manifestations spirituelles au sein d'une assemblée locale, dans sa vie propre, dirigée par l'Esprit. En Romains 12, on trouve non seulement le service de la parole, mais l'ensemble des services chrétiens qui nous sont présentés tous comme des dons de grâce. Ils vont de la prophétie, laquelle est le propre de quelques-uns seuls, à l'exercice de la miséricorde qu'assurément aucun des fidèles, frères ou sœurs, n'est dispensé de pratiquer. Chacun a reçu, chacun est exhorté à donner, mais en même temps chacun est rappelé à la mesure de foi que Dieu a départie à chacun pour ne pas la dépasser, de sorte que le corps entier fonctionne harmonieusement. En 1 Pierre 4, versets 10 et 11, la diversité des dons de la grâce variée de Dieu se répartit, dit l'apôtre, entre chacun de vous, appelés à en être les bons dispensateurs.
1 Pierre 4, versets 10 et 11, suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
De sorte que si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. L'amour fervent auquel tous les fidèles sont conviés fait qu'ils emploient les uns pour les autres les dons de grâce dont chacun d'eux, frère ou sœur, a reçu quelqu'un. Il ne faut pas que ces enseignements de la parole restent pour nous des considérations théoriques. Leur portée pratique est extrême. Il y a une grande diversité de dons. Nous sommes portés à n'appeler de ce nom que ceux qui sont en relief, en particulier le ministère de la parole, et à les apprécier dans la mesure où ils s'exercent de façon brillante ou captivante. Aux yeux de Dieu, il n'est pas de telle distinction. Au contraire, les dons les plus voyants correspondent à ce qui, étant le moins important et le moins précieux en soi, a dû recevoir extérieurement un honneur plus grand. 1 Corinthiens 12, versets 23 et 24.
Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient.
Le ministre de la parole n'est qu'un canal. Celui qui exerce la miséricorde est un foyer d'amour. Le plus humble service dans l'assemblée a souvent beaucoup plus de valeur que tel autre très en vue. Ces dons de grâce pour l'œuvre du service, à tous les degrés, confèrent non une autorité officielle, mais une responsabilité à ceux qui en sont investis. Serviteur, c'est ce que Christ a été. Quelqu'un voudrait-il être plus que son maître? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même celui qui préside, ou qui est à la tête, n'est point un chef au sens où l'entendent les hommes. Il est tel que ses frères, mais placé à un poste de responsabilité particulière. Le danger, pour qui a reçu un don propre à le mettre en vue, spécialement celui de présenter la parole, est de s'ériger en chef, et de détourner les âmes de Christ en les attachant, sciemment ou non, à soi-même. Inversement, le danger n'est pas moins grand pour les autres de se reposer passivement sur quelques-uns que Dieu a donnés et de s'endormir dans la routine, en provoquant ainsi, sans s'en douter peut-être, la naissance et l'existence d'un clergé. Chacun a un don de grâce. Chacun doit savoir ce qu'il a reçu du Seigneur et lui obéir dans la dépendance du Saint-Esprit. Pour que le corps s'accroisse et fonctionne, il faut que chaque membre accomplisse sa fonction, ni trop ni trop peu, comme le montre 1 Corinthiens 12. Nous sommes membres les uns des autres, et c'est pour le bien commun, non pour notre satisfaction personnelle, que nous avons à désirer avec ardeur les dons de grâce plus grands. Mais devant nous est ouvert un chemin bien plus excellent, celui de l'amour. On est heureuse à la pensée que c'est le Seigneur qui donne, en vue des besoins de l'assemblée qu'il aime. Il n'aura pas cessé de la pourvoir des dons nécessaires. Mais comment sont-ils exercés, et comment leur exercice est-il reçu par ceux qui en sont l'objet? Dans l'état présent des choses, bien des dons sont perdus, car inutilisés, bien qu'ils existent. C'est ce côté de l'emploi des dons que nous présente Romains 12. Agissons selon qu'il nous a été donné. S'il n'en est pas ainsi, quelle perte pour tous. L'état actuel de l'Église traduit non point l'absence des dons, mais leur non-emploi ou leur mauvais emploi. Timothée est exhorté à ranimer le don de grâce qui est en lui, Archippe à prendre garde au service qu'il a reçu du Seigneur. Le Seigneur peut nous dire à tous, « Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné ?» Loin de nous aussi la pensée que tous les dons actuellement suscités par Dieu se trouvent parmi les frères avec qui nous nous rassemblons, et n'ayons pas la prétention de les connaître tous, mais que, parmi nous, il n'y ait pas d'autre action que celle du Saint-Esprit s'exerçant par les dons, et que chacun agisse dans la dépendance selon qu'il a reçu du Seigneur lui-même. Les charges. Le Nouveau Testament parle, en outre, à diverses reprises, de frères appelés à s'occuper de l'assemblée locale comme anciens ou surveillants et comme serviteurs ou diacres.
Acte 11, verset 30. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.
Acte 14, verset 23.
Et leur ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Acte 20, versets 17 et 28.
Or, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit-Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils.
Philippiens 1, verset 1er.
Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe,
avec les surveillants et les serviteurs.
1 Timothée 3, Tite 1, 1 Pierre 5, verset 1.
J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée.
Jacques 5, verset 14.
Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'assemblée, qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur.
Hébreux 13, verset 17.
Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable.
Ces charges, comme on les appelle, ne sont nullement incompatibles avec l'exercice d'un don de présentation de la parole, comme le montrent les cas d'Étienne et de Philippe, mais elles ne lui sont pas davantage liées. L'ordre doit être maintenu dans l'assemblée, les déréglés doivent être avertis, les âmes soignées et encouragées. Il est nécessaire aussi que des hommes et des femmes dévoués s'occupent des choses matérielles, dont chacune, même la plus humble, a son importance. Phoebé était servante de l'assemblée à Sancré.
Les serviteurs institués en acte 6
s'occupaient des pauvres et distribuaient la nourriture. que des fidèles aspirent à de telles fonctions, c'est là désirer une œuvre bonne. Les qualités requises pour l'une et l'autre charge sont énumérées par l'apôtre Paul dans le chapitre 3 de la première épître à Timothée
et dans l'épître à Tite, chapitre 1, verset 7.
Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux.
Elles exigent des chrétiens fondés, expérimentés, pieux. C'est faute de ces qualités que de nos jours nous sentons si péniblement, dans la vie des assemblées locales, le manque de surveillants et de serviteurs. Là où ils existent, sachons les reconnaître et leur porter honneur. Mais encore une fois, la parole ne donne aucune direction quant à une investiture officielle et réglementée dans ses charges. L'Esprit-Saint vous a établi pour paître l'Assemblée de Dieu, dit Paul aux anciens d'Éphèse. Historiquement, les anciens, presbytérois, prêtres, ou surveillants, épiscopois, évêques, et les serviteurs, diaconois, diacres, se sont peu à peu mis à part des fidèles pour former le clergé. Ils se sont considérés, et ont été considérés, dans les églises catholiques comme seuls investis des dons et chargés de tout ministère, enseignement, culte, service divin. Ils se sont enfin recrutés eux-mêmes, leur corps spécial se donnant comme seul qualifié pour reconnaître de nouveaux prêtres selon un pouvoir qui leur viendrait des apôtres et qui se serait transmis sans interruption. Il n'est que de lire le Nouveau Testament pour constater qu'aucune de ces trois prétentions ne se justifie dans l'Écriture et qu'elles s'opposent à la souveraineté du Saint-Esprit dans l'Assemblée. D'ailleurs, dans la plupart des dénominations protestantes, les anciens ne constituent pas à proprement parler un clergé de la sorte, mais ils forment néanmoins une catégorie officielle et sont élus par l'ensemble des fidèles, ce qui n'est pas davantage conforme à l'Écriture. Si, lors de la désignation des sept diacres en acte 6, verset 1 à 6, l'ensemble des disciples jette les yeux sur eux et les présente aux apôtres, ceux-ci les établissent selon leur irremplaçable autorité.
Acte 6, versets 1 à 6. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et les douze, ayant appelé la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et, pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Et ce discours plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres, et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
En fait, il n'existe aujourd'hui sur la terre aucune autorité compétente pour établir des anciens ou des serviteurs. Mais il serait aussi funeste de prétendre qu'ils n'ont plus lieu d'être, et ce serait douter de l'amour du Seigneur pour son assemblée, que de penser qu'il a retiré ce qui est indispensable à la bénédiction des assemblées locales. Ils sont nécessaires au même titre que les dons. Et, comme l'exercice du ministère par les dons, l'administration de ses charges demande, avec ses capacités et ses qualités morales que la parole définit, en 1 Timothée 3, versets 8 à 13, comme en Acte 6, verset 3, et qui se résume dans la piété, une sagesse, un amour des saints et un amour du Seigneur tout particulier.
1 Timothée 3, versets 8 à 13. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables, de même que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Acte 6, verset 3. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous, qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse.
C'est l'accomplissement d'un saint devoir dans l'obéissance, non point l'occupation d'une place éminente ou de domination. 1 Pierre 5, verset 1 à 4.
J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ,
qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous.
Liberté et dépendance. Qu'il nous soit permis d'insister sur le point qui vient d'être abordé. L'absence de clergé et de ministère officiel ne signifie nullement une sorte de démocratie religieuse où chacun a tous les droits. Personne n'a de droit sur ses frères, mais chacun a les devoirs que le Seigneur lui assigne. Il s'agit de laisser au Saint-Esprit sa libre action pour que chaque rouage de l'organisme fonctionne pour le bien de l'ensemble et selon la volonté de Dieu. Les systèmes religieux ne conçoivent pas de rassemblement sans des directeurs désignés, un ordre établi, une liturgie, parce que la présence effective du Saint-Esprit dans l'assemblée n'y est pas comprise. Les hommes, même les mieux intentionnés, seraient-ils plus sages et plus puissants que le Saint-Esprit ? Mais prenons garde, sous prétexte que nous sommes affranchis d'une domination humaine, de ne pas agir dans l'indépendance à l'égard de celui qui prend de ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Jean 16, verset 14.
Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Et Jean 14, verset 26.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites.
Aimez les cœurs et les consciences dans la présence de Christ. Sans lui, l'assemblée ne saurait exister. Quand il est attristé ou éteint, elle perd son caractère. Comme on l'a souvent répété, l'assemblée serait-elle le seul lieu où la chair puisse se manifester sans être réprimée? Un don n'a pas, pour être exercé, à attendre d'être sanctionné par l'Église. C'est à elle à en reconnaître l'exercice, discernant s'il est de Dieu, d'après la manière dont il concourt à l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 29.
Que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les autres jugent.
1 Thessaloniciens 5, verset 19 et 21.
N'éteignez pas l'esprit. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon.
1 Jean 2, verset 20.
Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses.
1 Jean 4, verset 1er.
Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.
Un évangéliste peut être nécessaire ici. Un, deux pasteurs là, un docteur ailleurs. Dieu les suscitera selon les besoins que seul il connaît, et le don est entièrement libre vis-à-vis des hommes. Mais, hélas, la chair est toujours portée à user de la liberté pour se faire valoir. Des hommes peuvent prétendre exercer un don sans le posséder, exercer à contre-temps celui qu'ils possèdent, ou agir dans une plus grande mesure qu'ils n'ont reçue. Qui dira le préjudice que nos constants manquements à cet égard infligent à l'Assemblée de Dieu? Occupés de nous-mêmes plus que de Christ et des siens, tantôt nous refusons de mettre en valeur le don que nous avons reçu, et c'est ainsi que bien des frères qui auraient pu édifier l'Assemblée n'y ont jamais ouvert la bouche. Tantôt, pour nous en tenir au ministère de la parole, une profusion de discours hors de propos remplace la vraie parole propre à édifier. Il faut l'écrire avec beaucoup de tristesse, les choses se passent parfois comme si la caractéristique des réunions sans président officiel était que tout le monde a le droit d'agir. Rien n'est plus contraire à la parole et ne dénote une méconnaissance plus complète de l'Église, des droits de Christ et de la place du Saint-Esprit. À tout le moins, la connaissance du Saint-Livre, la capacité de la communiquer à d'autres, le sobre bon sens sont-ils indispensables? Ils sont, pour ainsi dire, l'évidence du don, de même qu'on n'aurait pas l'idée de faire un messager d'un impotent ou une vigie d'un aveugle. Ensuite, celui qui a la responsabilité d'un don ne saurait l'exercer utilement sans la diligence, l'amour de Christ et l'Église, la dépendance. Mais ce n'est point la facilité de parole, ni l'instruction ou la science humaine qui confèrent un don, et quiconque peut s'exprimer clairement, fût-ce éloquemment, n'est pas pour autant qualifié par le Seigneur, encore que tout croyant qui a reçu de telles facultés doive se demander pourquoi il les a reçues et s'il fait bien de les employer pour le monde et non pour le Seigneur. Les facultés de l'homme n'ont point de part à la vérité de Dieu, sinon que le Saint-Esprit peut se servir d'elles et qu'il les emploie chez ceux qu'il appelle, ce qui est tout différent. Si ceux qui sont toujours portés à se mettre en avant ont à prendre garde de ne pas renverser la clôture à laquelle le Dieu de mesure a limité leur don, Ecclésiaste 10, verset 8, il est bon aussi d'exhorter les timides à ne pas se laisser arrêter quand ils se sentent appelés par le Seigneur à un service.
Ecclésiaste 10, verset 8, « Qui creuse une fosse y tombe, et qui renverse une clôture, un serpent le mord. »
Qu'il s'y engage avec cette hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. 1 Timothée 3, verset 13, « Venu de Dieu, dont le livre des Actes parle à maintes reprises. »
1 Timothée 3, verset 13, « Car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. »
Qu'ils recherchent la communion des saints, non les approbations flatteuses, parfois suspectes et toujours à craindre, mais la critique saine, toujours reconnaissable, parce qu'inspirée par l'obéissance à la parole et par l'amour. Une note en bas de page. Entre beaucoup d'écrits traitant du ministère dans l'Assemblée, rappelons 5 lettres sur le culte et le ministère par l'Esprit, par W. Trottet, et citons la conclusion de sa préface. Ce dont nous avons besoin, c'est de patience, de foi dans le Dieu vivant, d'amour pour Christ, de vraie soumission à l'Esprit, d'études diligentes de la parole et d'une sincère soumission les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Fin de la note. Le ministère des femmes. Le Nouveau Testament nous le montre extrêmement précieux à sa place, que ce soit pour l'enseignement dans la famille, en entretien privé, comme nous voyons Priscilla aux côtés d'Aquila, pour instruire Apollos, ou les 4 filles de Philippe prophétisant, ou que ce soit dans tous ses services, tels celui de Phoebé, servante de l'assemblée à Sancré, où la femme est irremplaçable, hospitalité, soins aux malades, etc. Mais s'il s'agit du service public de la parole dans l'Assemblée, l'enseignement scripturaire est si formel qu'il suffit de le transcrire. Il est honteux pour une femme de parler dans l'Assemblée. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, et 1 Timothée 2, versets 11 et 14. Ce n'est pas une question de capacité, de connaissance, ni de dévouement. Il s'agit simplement d'honorer le Seigneur dans l'assemblée en y respectant l'ordre voulu par Dieu.
1 Corinthiens 14, versets 34 et 35, « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. » 1 Timothée 2, versets 11 à 14, « Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Car Adam a été formé le premier, et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression.
Ainsi, l'égalité de tous les enfants de Dieu comme sacrificateurs ne signifie point uniformité. Le sacerdoce universel ne signifie pas ministère universel et interchangeable. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit.